Chapitre 13. Sur quelques amitiés de Chopin et sur son esthétique. Ce n'est pas seulement le mobilier et les habitudes que l'on mit en commun à la rue Pigalle, c'est aussi les amis. Chopin invitait fort ses compatriotes, qui se lièrent avec tous les amis de Georges, Leroux, Delacroix, Pauline Viardot, la grande cantatrice, et Henri Heine, en tête. Frédéric amena les frères Ximala, le prince Kchatorisky, le violoncelliste Francôme, Fontana, les poètes Slovachki et Krasinski, le dessinateur Kwiatkowski, et surtout Mickiewicz, l'auteur des Tchiadi, ou Fête des morts, qu'on donnait pour plus profond que Goethe et Byron. Parfois, le soir, ce voyant vient à la rue Pigalle accompagné de plusieurs de ses compatriotes. Il s'installe dans un coin sombre du petit salon et lit sa Comédie infernale, ou l'une de ses ballades, quelques nouveaux poèmes tout pleins des odeurs de ses forêts. Ou bien il improvise dans un délire sacré. Sur la face des émigrés se peint bientôt cette grande consternation slave, inactive et muette, qui se prolonge en un silence chargé de nostalgie. Puis Chopin se lève et s'assied au piano. On baisse encore la lampe. Il prélude par de légers arpèges, glissant sur les touches à sa manière habituelle, jusqu'à ce qu'il ait rencontré la note bleue, la tonalité qui lui semble correspondre le mieux à l'ambiance générale. Alors il attaque un de ses morceaux favoris, l'étude en tierce du second cahier, par exemple. Sol dièse mineur. Un de ses compatriotes l'appelle la Sibérienne, parce qu'elle symbolise le voyage du déporté polonais. La neige tombe sur la plaine sans limite. Une gamme montante et descendante à chaque main figure cet infini universel de manière saisissante. On entend les clochettes de la Troïka qui s'approchent, passent et s'enfoncent vers l'horizon. Et chacun a vu passer son frère ou son ami encadré par deux gendarmes russes qui l'emmènent pour jamais. Ou bien un scherzo se dessine, se fixe, vieux refrain populaire que Frédéric a entendu dans son enfance aux portes d'une auberge de village. Eux tous, le reconnaissant, le fredonnent en sourdine entre leurs lèvres serrées, tandis que leurs visages se couvrent de larmes. Et l'artiste le varie, le scande doucement, le jette et le reprend, néglige les coloris pour ne chercher que le dessin. Pour lui, le dessin, c'est l'âme. Malgré des effets de sonorité d'une fluidité vaporeuse, c'est le dessin qu'il poursuit, la ligne pure de sa pensée. L'un des amis qui l'écoute écrit « Ses regards s'animaient d'un éclat fébrile, ses lèvres s'empourpraient d'un rouge sanglant, son souffle devenait plus court. » Il sentait, nous sentions, que quelque chose de sa vie s'écoulait avec les sons. Tout à coup, une petite toux sèche, un rapide point d'orgue en pianissimo, et dans l'ombre, Chopin dresse son fin visage blanc aux yeux cerclés de noir. Mais cela ne se termine pas toujours sur cette vision affligeante. Parfois, au contraire, jaillit de derrière le piano l'empereur d'Autriche, un vieillard impertinent, un anglais flegmatique, une anglaise sentimentale et ridicule. Un vieux juif sordide. Et c'est encore Chopin, grand amateur de grimaces, qui, après avoir tiré des larmes de tous ses yeux, plisse les visages par le fou rire. Parmi les vieux amis de George Sand, il est un petit homme frêle, pâle, nerveux, mais de volonté et de pensée si fort qu'il se détache sur son temps comme une statue de bronze dans un Olympe de plâtre. En son métier, c'est tout ensemble le plus violent, le plus régulier et le plus pur des créateurs. Or, comme en art, tout est affaire d'âme à ce qu'il dit, voici une opinion qui sous sa plume a quelque poids. « J'ai, écrit-il, des tête-à-tête à perte de vue avec Chopin, que j'aime beaucoup et qui est un homme de distinction rare. C'est le plus vrai artiste que j'ai rencontré. Il est de ceux, en petit nombre, qu'on peut admirer et estimer. » Cet homme s'appelle Eugène Delacroix. Son très jeune ami Baudelaire disait de lui qu'il avait l'amour du grand, du national, de l'immense, de l'universel, lequel s'exprimait dans sa peinture dite décorative ou dans ses grandes machines. Quoi de plus contraire à toute l'esthétique de Chopin? Mais ils ont tous les deux un certain goût du conventionnel, toutefois pour les arts qui ne sont pas le leur. Delacroix, ce novateur puissant, n'aime en littérature que le classique, en musique que Mozart. Chopin, en peinture, préfère de beaucoup M. Ingres à Delacroix. Si opposés qu'ils soient de culture, de tendance, de goût, Chopin et Delacroix se comprennent pourtant profondément par le cœur. Grand amateur et connaisseur de musique, Delacroix donne bientôt à Chopin la meilleure place après Mozart. Quant à Chopin, qui chérit et respecte l'homme, il continue à détester sa peinture. C'est par le tempérament surtout qu'ils sont frères. Ouvrez les guillemets. Mélange de scepticisme, de politesse, de dandysme, de volonté ardente, de ruse, de despotisme, et enfin d'une espèce de bonté particulière et de tendresse modérée qui accompagne toujours le génie. Fermez les guillemets. Voyons, de qui s'agit-il dans ce portrait si ressemblant à Chopin? C'est encore Baudelaire qui parle de Delacroix. Haïsseur de multitudes, sceptique, poli, homme du monde toujours préoccupé de dissimuler les colères de son cœur, autant de traits qui conviennent à chacun. Deux violents, deux concentrés, deux pudiques, tels sont ces aristocrates nés dans le peuple. Delacroix, en menant sa vieille servante au Louvre pour lui expliquer la sculpture assyrienne, ou Chopin jouant du piano pour son domestique, voilà des images d'un meilleur enseignement critique que 10 pages d'abstraction. Ajoutons que ce sont tous deux de grands malades, des souffreteux, des tousseux, et que leur seule revanche à prendre sur la vie, c'est de vivre par l'esprit. Je voudrais dire par l'esprit chargé de sensations. Juge exquis des nuances, la musique leur en fournit d'incomparables. Mozart est leur dieu parce que sa science se trouve tout naturellement égale à son inspiration. Des œuvres de Beethoven, ils disent
« Passage commun, à côté de sublime beauté ».
Aux oreilles de Delacroix, il est parfois diffus, entortillé. À celle de Chopin, trop athlétique, trop shakespearien, d'une passion qui frise toujours le cataclysme. Le peintre l'admire cependant, parce qu'il le trouve moderne, bien de son temps. C'est la raison qui précisément le rend suspect à Chopin, auquel il faut avant tout un vin soigneusement décanté, une liqueur d'où se dégage le bouquet des souvenirs. Nietzsche dira plus tard « Toute musique ne commence à avoir un effet magique qu'à partir du moment où nous entendons parler en elle le langage de notre passé. » Or Chopin, cet exilé, n'entend jamais que les voix les plus anciennes de sa mémoire. C'est là sa poésie.
« Quand Beethoven est obscur, dit-il, et paraît manquer d'unité, ce n'est pas une prétendue originalité un peu sauvage dont on lui fait honneur qui est en cause. C'est qu'il tourne le dos à des principes éternels. Mozart, jamais. Chacune de ses parties a sa marche qui, tout en s'accordant avec les autres, forme un chant et le suit parfaitement. C'est là le contrepoint. Punto contra punto. On a l'habitude d'apprendre les accords avec le contrepoint, c'est-à-dire la succession des notes qui mènent aux accords. Berlioz plaque des accords et remplit les intervalles comme il peut. En musique, la logique pure, c'est la fugue. Être savant dans la fugue, c'est connaître l'élément de toute raison et de toute conséquence.
Comme Liszt, Chopin possédait de chacun de ses doigts un état de conscience distinct. Il parvenait à dissocier leur impression, à leur faire transmettre au cerveau une harmonie de sensations manuelles infiniment variable. C'était toute une éducation de technique et d'observation qui enseignait à se connaître d'une façon nouvelle, à se penser d'une façon nouvelle. Pour lui, un bon mécanisme n'avait pas pour but de tout jouer avec une sonorité égale, mais d'acquérir une belle qualité de toucher, afin de nuancer d'une manière parfaite.
« Pendant longtemps, disait-il, les pianistes ont travaillé contre la nature en cherchant à donner une sonorité égale à chaque doigt. Au contraire, chaque doigt devrait avoir sa propre partie. Le pouce a la plus grande force, parce qu'il est le plus gros et le plus indépendant des doigts. Vient ensuite le cinquième à l'autre extrémité de la main. Puis l'index, son support principal. Enfin le troisième, qui est le plus faible des doigts. Quant à son frère siamois, certains pianistes essayent, en y mettant toute leur force, de le rendre indépendant. C'est chose impossible et vraisemblablement inutile. Il y a donc plusieurs espèces de sonorités, comme il y a plusieurs doigts. Il s'agit d'utiliser ces différences, et ceci, en d'autres mots, est tout l'art du doigté. »
Un autre ami de Chopin, c'est Liszt, ami de cœur et ami de métier. On essayait souvent de les opposer l'un à l'autre, de leur persuader à tous deux que le contraste de leur méthode, de leur jeu, comme celui de leur caractère, en faisait des rivaux. Mais tel ne fut pas le cas, et si Chopin paraît quelquefois un peu fuyant et même timide devant l'autre grand virtuose de son temps, c'est que les femmes s'en mêlèrent. George Sand et Marie Dagou se connaissaient depuis longtemps. Avant le règne de Chopin, George était allé à Genève, où elle avait séjourné une saison dans l'intimité de ce joli faux ménage romantique. Puis Franz et Marie étaient venus passer un été à Nohant. De part et d'autre, il y avait eu curiosité, admiration, mais aussi de secrètes jalousies. La comtesse se piquait d'écrire. Elle avait le style noble, la tête sceptique, mais bien meublée. Et, sauf en amour, de la mesure en tout. Chez Georges, le spontané l'emportait. Elle eut d'abord pour cette belle grande dame qui jetait son bonnet par-dessus les autels du faubourg une sympathie de tempérament. C'était une éclatante mise en pratique de ses théories sur l'amour et la liberté.
« Vous me semblez la seule chose belle, estimable et vraiment noble que j'ai vue briller dans la sphère patricienne, » lui écrivait-elle. « Vous êtes pour moi le véritable type de la princesse fantastique, artiste, aimante et noble de manière, de langage et d'ajustement, comme les filles des rois au temps poétique. »
Mais cet engouement était tout littéraire. Chez Marie Dagou aussi, bien plus intéressée par la romancière presque illustre que par cette étrange descendante d'une lignée de rois et d'un marchand d'oiseaux. Elle décida bientôt de soustraire Liszt à son influence, et c'est avec déplaisir qu'elle vit arriver ce Chopin dont son amant prophétisait le doux et profond génie. On se refroidit donc, on se quitta. Georges envoya la comtesse à tous les diables. Mais Liszt revit Chopin, car il l'aimait. Personne ne jouait les compositions du Polonais mieux que lui, parce que personne ne les connaissait plus, ne les avait davantage approfondies et exécutées dans ses concerts.
« J'aime ma musique quand elle est jouée par Liszt. »
Dans l'ouvrage que Liszt a consacré plus tard à son ami, il compare les études, les préludes, les nocturnes, au chef-d'œuvre de La Fontaine. Je ne sache pas que l'on ait fait de comparaison plus juste. Deux grands poètes qui ont cherché à faire tenir le très vaste dans le très petit et saupoudrèrent d'ironie leur cœur chaque jour blessé. C'est ici le lieu de noter le mot de Heine, qui appelait Chopin le « Raphaël du pianoforte ». Dans sa musique, chaque note est une syllabe, chaque mesure un mot, et chaque phrase une pensée. Il inventa ces admirables progressions harmoniques par lesquelles il dota d'un caractère sérieux même les pages qui, vu la légèreté de leur sujet, ne paraissaient pas devoir prétendre à cette importance. C'est par le sentiment qu'elles débordent, et en les examinant de près, on y reconnaît, selon Liszt, ces transitions qui relient le sentiment et la pensée, ces dégradés de teintes dont parlait Delacroix. Des essais classiques de Chopin, Liszt admirait surtout l'adagio du deuxième concerto, pour lequel Chopin lui-même avait une prédilection marquée. Ouvrez les guillemets. Les dessins accessoires appartiennent à la plus belle manière de l'auteur. La phrase principale en est d'une largeur admirable. Elle alterne avec un récitatif qui pose le ton mineur et qui en est comme l'antistrophe. Fermez les guillemets. Dans plusieurs des études et des scherzo, Liszt retrouve l'exaspération concentrée, le désespoir ironique et hautain de Fritz. Il y faut toutefois une oreille exercée, car Chopin ne laissait guère soupçonner les secrètes convulsions qui l'agitaient. Son caractère se composait de mille nuances qui, en se croisant, se déguisaient les unes les autres d'une manière indéchiffrable. Et Liszt, dont l'intelligence se signale toujours si vivement, écrit cette réflexion admirable sur les dernières œuvres de Chopin. Il ne se servait plus de l'art que pour se donner à lui-même sa propre tragédie. Après avoir chanté son sentiment, il se prit à le dépecer. Mais même alors, l'émotion qui inspire ces pages reste d'une pure noblesse, leur expression demeure dans les vraies limites du langage de l'art, sans vulgarité, sans cri outré, sans contorsion. Loin d'être diminuée, la qualité de l'étoffe harmonique n'en devient que plus intéressante par elle-même, plus curieuse à étudier. Il va de soi que Chopin se donnait pour romantique, et pourtant il se réclamait de deux maîtres, Bach et Mozart. De Bach, qu'il admirait totalement, sans aucune réserve, de Mozart, chez qui il retrouvait les principes de toutes les libertés dont il usait abondamment. Et cependant, il n'admettait pas qu'on voulût écraser le fronton grec avec la tour gothique, ni qu'on démolît les grâces pures et exquises de l'architecture italienne au profit de la luxuriante fantaisie des constructions mauresques. Il n'apportait pas la plus légère louange à ce qu'il ne jugeait point être une conquête effective pour l'art. Son désintéressement faisait sa force. Liszt. On sait que Beethoven, Michel-Ange, Shakespeare l'effrayaient. Il paraît plus étrange qu'il n'ait pas trop goûté Schumann. Il trouvait Mendelssohn commun et n'écoutait pas volontiers certaines œuvres de Schubert, dont les contours étaient trop aigus pour son oreille, où le sentiment est comme dénudé. Toutes les rudesses sauvages lui inspiraient de l'éloignement. En musique, comme en littérature, comme dans l'habitude de la vie, tout ce qui se rapproche du mélodrame lui était un supplice. À propos de Schubert, il dit un jour à Liszt
« Le sublime est flétri lorsque le commun ou le trivial lui succède. »
Même dans Mozart, il trouvait quelques tâches. Il regrettait certains passages de Don Juan, cette œuvre qu'il adorait. Il parvenait, dit toujours Liszt, à oublier ce qui lui répugnait, mais se réconcilier avec lui était impossible. Romantique donc, il ne s'engagea pourtant dans aucune des mêlées de l'époque, vécue à l'écart des luttes où Liszt et Berlioz se dépensèrent à fond, mais apportait cependant à leur groupe des convictions absolues, tenaces et inflexibles. Lorsque ses opinions eurent prévalu, en vrai grand seigneur et chef de parti, il se garda de survaincre et retourna à toutes ses habitudes d'art et d'esprit. Combien souvent Liszt s'est penché sur le clavier à côté de Chopin pour suivre le toucher du sylphe. Il l'étudiait avec amour et minutie, aussi fut-il le seul qui réussit à l'imiter. Il faisait toujours onduler la mélodie, ou bien il la faisait mouvoir, indécise, comme une apparition aérienne. C'est le fameux rubato. Mais le mot n'apprenait rien à qui savait et rien à qui ne savait pas. Aussi Chopin cessa-t-il d'ajouter cette explication à sa musique. Si l'on en avait l'intelligence, il était impossible de ne pas deviner cette règle d'irrégularité. Liszt l'expliquait ainsi à l'un de ses disciples. « Regardez ces arbres, le vent joue dans leurs feuilles et réveille en eux la vie, mais ils ne bougent pas. Ces compositions doivent être rendues avec cette sorte de balancement accentué et prosodié, cette morbidezza dont il était difficile de saisir le secret quand on n'avait pas souvent entendu Chopin lui-même. Il leur imprimait à toutes on ne sait quelle couleur sans nom. Quelle apparence indéterminée, quelle pulsation tenant de la vibration, qui n'avait presque plus rien de matériel et, comme les impondérables, semblait agir sur l'être sans passer par les sens. Chopin se livrait aussi à des fantaisies burlesques. Il évoquait volontiers parfois quelques scènes à la Jacques Callot pour faire rire, grimacer, gambader des figures fantastiques, spirituelles et narquoises, pleines de saillies musicales, pétillantes d'esprit et d'humour anglais comme un feu de fagot vert. L'étude numéro 5 nous a conservé une de ces improvisations piquantes où les touches noires du clavier sont exclusivement attaquées comme l'enjouement de Chopin n'attaquait que les touches supérieures de l'esprit. C'est à ses compatriotes qu'il montrait le plus volontiers ses subtilités pianistiques, à quelques amis de choix. On dit que les élèves de ses élèves se font aujourd'hui encore une gloire de ses recettes précieusement transmises. Sans doute naîtra-t-il toujours par-ci par-là une âme chopinienne. Mais l'insaisissable se laisse-t-il enseigner ? Liszt l'a dit. Chopin a passé parmi nous comme un fantôme.